Bertrand Hen, vous recevez ce matin François de Smet, premier directeur du Centre fédéral de la migration.
Exactement, bonjour François de Smet.
Bonjour monsieur Hen.
On vous connaît bien hein, sur la première, vous êtes l'un de nos chroniqueurs intervenant souvent dans nos débats, mais depuis vous êtes devenu donc directeur du Centre fédéral migration qui s'appelle Myria, on va en parler, beaucoup de gens ne connaissent n'en doute pas cet organisme, c'est normal, c'est nouveau. Hein. Et il doit informer sur les migrations, veiller au respect des droits fondamentaux des étrangers et stimuler la lutte contre le trafic d'êtres humains. Si on veut résumer, vous êtes quoi ? Une sorte de vigie démocratique pour les migrants ?
Écoutez, entre autres, on a l'ambition de l'être. Donc, institutionnellement, de manière très courte, il y avait un centre pour l'égalité des chances que tout le monde connaît. En fait, il n'existe plus depuis mars 2014. Il est remplacé par deux institutions. Il y a un centre interfédéral pour l'égalité des chances qui continue à lutter contre toutes les discriminations et dans les compétences aussi des communautés et des régions. Et puis, il y avait les trois compétences que vous venez de citer qui étaient également au sein du centre et dont le législateur et le gouvernement se sont dit, ben voilà, il faut laisser ça aux mains d'un centre fédéral qui reste autonome, qui peut avoir une prise de parole libre, en ce compris vis-à-vis de nous, c'est-à-dire
des politiques,
ce qui est quand même positif de leur part dans une démocratie de se doter de tels pare-feu. Donc on est à la fois un centre de recherche, on reçoit des étrangers en requête sur leurs droits, on a à peu près 1000 signalements par an, et on veut essayer d'être au carrefour du politique, de l'institutionnel. On collabore évidemment avec l'Office FEDASIL et une série d'autres organismes pour traiter les chiffres, mais également avec le monde académique, avec le monde citoyen, avec les médias. On veut essayer de faire mieux comprendre ce que c'est que la migration et essayer d'y contribuer positivement. Avocat et vigie aussi, mais dans tous les sens du terme, notre compétence en traite des êtres humains, par exemple, nous autorise à ester en justice ce qu'on fait contre des auteurs de traite et de trafic, car les premiers à enfreindre les droits des migrants, c'est d'abord les trafiquants.
Alors, vous présentez aujourd'hui votre premier rapport sur la question migratoire en Belgique, on va en parler, mais avant, cette actualité liée à l'asile, évidemment, qu'est-ce qu'on est en train de vivre ? Quel mot vous utilisez, François de Smet ? On entend afflux de migrants. Crise de demandeurs d'asile, exode massif. Comment est-ce que vous qualifiez les événements qu'on est en train de vivre ?
Écoutez, moi je ne dramatise pas facilement, mais je crois qu'on peut à présent le dire sans trop de problèmes. On est sans doute face à la pire crise humanitaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'après le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, on compte 59 millions de personnes déplacées de force. Il n'y en a jamais eu tout simplement autant depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais le problème et peut-être le scandale, d'une certaine manière, c'est que l'Europe n'accueille que 8% de ces réfugiés. La plupart de ces réfugiés, notamment ceux de Syrie, sont accueillis, il faut quand même le rappeler, dans les pays limitrophes.
La Jordanie, la Turquie, le Liban.
2 millions en Turquie, 1 million au Liban, un pays de 4 millions et demi. C'est comme si nous, on accueillait 2 millions et demi de personnes. On en a à peine 20 000 pour cette année et c'est pratiquement la révolution. Pour l'Europe, à l'échelle de l'Europe, ça fait un demandeur d'asile pour 1000 habitants. On est quand même très, très loin des espèces d'invasions barbares dont on nous fait le portrait, même si une série d'images tente à nous montrer le contraire, mais de manière contre-intuitive. Voilà, l'Europe a normalement les moyens, en tout cas
capacité
économique, financier et politique, de surmonter cette crise. Je rappelle d'ailleurs qu'au niveau de la Belgique, on a déjà eu davantage de demandeurs d'asile qu'aujourd'hui. En l'an 2000, on en a eu 40 000. On a déjà eu des pics, là, de certains mois, de plus de 4 ou de 5 000, comme on vient d'en avoir ici au mois d'août. Et comme vous le constaterez avec moi, la Belgique a très bien survécu à cet épisode.
Alors, vous venez de nous dresser un petit peu le portrait de ce qu'on est en train de vivre. Mehdi en parlait. Est-ce que vous avez vu la photo, François de Smet, de cet enfant de 3 ans mort à Bodrum qui fait la une ce matin? Vous l'avez vu?
Oui, je l'ai vu ce matin comme tout le monde.
Qui est responsable de sa mort à cet enfant? Est-ce que c'est Bachar el-Assad? Est-ce que c'est l'État islamique? Est-ce que c'est l'Europe qui ferme ses portes? Qui est responsable de la mort de cet enfant?
Beaucoup de monde. Par cascade, et sans doute globalement au bout du compte, l'indifférence qui rend tout cela possible. Il est clair que les photos frappent extrêmement fortement les consciences. Faut quand même rappeler les chiffres qu'il y a derrière, qui frappent moins, mais qui sont pourtant terribles. Il y a 3500 personnes qui sont mortes en Méditerranée en 2014 en essayant de traverser. Il y en a déjà 2500 rien que pour les 8 premiers mois de l'année 2015. Voilà, on connaît ces chiffres, ils nous traversent quelque part, mais c'est souvent malheureusement comme ça. Ce sont tout à coup des photos, des clichés qui arrivent à frapper les consciences. Nous, dans le rapport, notre rapport annuel qu'on sort aujourd'hui, on a aussi utilisé une photo, celle de Rosé Palasson, une photo assez connue qui a fait le tour du monde, elle, l'année dernière, où vous voyez deux jeunes femmes d'entité de Melilla au Maroc, l'enclave espagnole, en train de jouer au golf avec des grappes de migrants que la police sont en train d'essayer d'attraper et qui sont littéralement sur des grillages entre l'Afrique et l'Europe. Là aussi, c'est la même chose. Ça montre une sorte d'indifférence. J'ajoute, parce qu'on peut critiquer les politiques et on le fera, les citoyens aussi sont parfois un peu schizophrènes sur le sujet.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Il y a un syndrome, il y a des citoyens qui se mobilisent, et ça fait chaud au cœur de les voir, notamment pour les gens qui secourent les gens qui font la file, qui sont dans des tentes, il faut quand même le rappeler, devant l'Office des étrangers au moment où nous
parlons.
Ici
en Belgique, ouais.
Mais si vous faites des statistiques, et on a encore vu avec un sondage Ipsos, vous avez grosso modo une majorité, 60% si je me souviens bien, des Belges, qui n'ont, et c'est européen aussi, qui n'ont pas une bonne image des migrants. Mais les mêmes personnes, je suis prêt à le parier, sont capables de se mobiliser après-demain pour le fils du voisin qui a reçu un ordre de quitter le territoire. Oui, mais c'est pas juste parce que lui, on le connaît. Voilà,
derrière les distance qui se crée entre ce qui se passe à Bodrum et ce jeune homme, évidemment, ce jeune enfant qui est mort, et ce qui se passe ici en Belgique au coin du quartier.
Évidemment.
Et on n'arrive pas à faire le lien entre les deux.
Ben voilà, et ça c'est et ça c'est humain. Faut quand même observer, enfin, faut quand même reconnaître aussi la migration. Est un phénomène, c'est un sujet vraiment difficile. C'est sans doute le sujet politiquement le plus difficile à traiter. On le sent bien, il y a de tout là-dedans, parce que toute la migration ne concerne pas l'asile. Et il y a plein de sujets de polémiques possibles. On peut s'enguirlander sur le regroupement familial, les mariages blancs, la migration de travail. C'est l'objet de toutes les peurs. Mais ici, avec la crise d'asile que nous avons, ce qui me rend triste, c'est qu'on est face à un sujet qui devrait faire l'unanimité, qui devrait vraiment dépasser tous les clivages.
Et on est en train de tout confondre.
Oui, bien sûr, mais c'est aussi le moment de faire... Il faut saisir l'opportunité dans la crise, comme dirait Jean Monnet, qui avait aussi compris que le projet européen ne se bâtissait que sur crise. Voilà, donc c'est un peu dommage parce que l'asile, donc le respect des conventions de Genève... Quand vous voyez les flux actuels, ce sont des Syriens, des Irakiens, des Somaliens, des Érythréens, des gens qui, globalement, ont de très bonnes raisons d'être là. C'est pas pour ça qu'il faut pas parler du reste de la migration, des inégalités économiques hors sud, la différence entre migrants et réfugiés. Mais là, je trouve qu'on est vraiment dans un momentum où, tout simplement, la seule chose à faire de juste est d'accueillir ces gens. Et il faut arrêter d'essayer d'assortir tout ça tout de suite avec un commentaire genre dissertation sur le statut social des réfugiés ou telle commune qui trouve qu'elle en accueille trop. Non, là, il faut être au rendez-vous parce qu'il n'y a que l'Europe qui peut le faire. On est la région la plus riche du monde. On est à
et
côté
la plus
des
proche
éléments.
Aussi, évidemment.
Et ce sont nos valeurs fondamentales démocratiques qui sont en jeu.
Et ça, il n'y a que Angela Merkel qui l'a rappelé dans les derniers jours de débat. Que c'était d'abord une question de valeur et une question de droit. Comment vous expliquez, et puis là on va revenir maintenant en Belgique, et ce qui se passe dans le débat public, qu'il n'y a personne qui sait prendre une parole qui s'élève un petit peu?
Ce qui se passe en Allemagne, je trouve ça assez remarquable. Bien sûr, vous avez quelques manifestations néo-nazies devant le centre d'accueil. Il ne faut quand même pas tout peindre en rose non plus. Mais enfin, grosso modo, vous avez une mobilisation de la société civile. Vous avez des bannières dans les stades. C'est quand même assez fou de voir ça, quand on sait la réputation que d'habitude. On les hooligans. Attention, c'est pas juste de la philanthropie. Les Allemands sont aussi des gens extrêmement intelligents.
Ils en ont besoin pour le marché du travail.
Leur démographie est en baisse d'une manière assez préoccupante. Et ils ont compris, eux, une réflexion que toute l'Europe devrait se faire, à savoir, nom d'un chien, nous sommes un continent en train de vieillir. Pas tous de la même manière. Les Français vieillissent moins que les Allemands, etc. Nous, on est un peu entre les deux. Mais enfin, grosso modo, il y aurait de quoi poser la question d'autres canaux migratoires. Et là aussi, ça doit se faire au niveau de l'Europe. Donc, les deux chantiers évidents, et tant mieux si Mme Merkel, avec d'autres, veut les porter, c'est d'une part un statut d'asile, pour rester une seconde encore sur l'asile, commun à toute l'Europe, puisque le traité de Dublin qui impose que vous devez rentrer votre demande d'asile sur le premier pays, la première île grecque sur laquelle vous posez les pieds, est complètement dépassé par les faits. Il faut permettre aux gens de faire leur demande d'asile depuis l'extérieur, d'accéder à l'Europe après avec des visas humanitaires et qu'on se répartisse équitablement les charges. Et à côté de ça, eh bien, pourquoi ne pas donner une chance réelle, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, aux gens qui, dans le monde entier, quel que soit leur profil de formation, veulent accéder au marché du travail ici. C'est pas forcément... je sais que les gens ont peur de l'avenir, ils ont peur de voir leur identité se diluer, mais c'est pas nécessairement un mauvais calcul. Nous, en tout cas, ça fait partie des choses qu'on va étudier, les nouveaux canaux migratoires possibles, essayer de faire correspondre un peu plus les flux aux vraies motivations des gens.
Alors, François de Smet, revenons juste encore sur la crise de l'accueil, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas accéder au commissariat général réfugiés apatrides parce que voilà, il n'y a pas assez de place, on ne sait pas.
D'abord l'office, parce qu'en fait
l'office des étrangers,
c'est l'office que les demandes sont enregistrées, et puis ces gens-là reçoivent une place à fait d'asile, et puis ils continuent leur procédure au
séjour. Et donc Est-ce que le gouvernement est responsable d'un manque de prévoyance, selon vous ?
Il est, alors, essayons vraiment d'être juste, il n'est pas responsable de l'ampleur de la crise,
non,
qu'objectivement personne ne pouvait prévoir. Ceci étant, quand vous observez qu'on était encore en juin et en juillet en train de fermer des places dans des centres ouverts, et qu'aujourd'hui...
On a fermé 6 000 en Belgique ces dernières années, si je m'abuse.
Aujourd'hui, effectivement, on a des gens qui attendent leur tour sous des tentes devant l'office étranger. On peut se poser la question, ce qui s'est passé, en fait, depuis 2013, on a fermé 6 500 places, pour être juste, et surtout le gouvernement précédent qui en a fermé 5 000, le gouvernement actuel en a fermé entre 1 000 et 2 000. Il y avait au départ vraiment des raisons qu'on peut comprendre. Les demandes d'asile ont baissé en 2012 et 2013. Mais en 2014, il y a eu une petite hausse de 8%, mais surtout, tous les autres pays autour de nous, l'Union européenne globalement, vous aviez une explosion des demandes d'asile de plus 44%. Mmh. Et là, même si on ne peut pas prévoir, demander au gouvernement de tout prévoir à l'unité près, on peut se dire qu'il a peut-être eu la main un peu lourde en continuant à supprimer un peu trop de places dans le réseau d'accueil en début 2015. Le vrai problème, c'est que l'accueil, ce n'est pas juste bad bed and broad, donc une douche, un pain et un lit. comme le répète régulièrement Théo Franken. C'est aussi et surtout un accompagnement psychosocial. On parle de gens qui échappent à des bombardements, qui fuient les fous furieux de l'État islamique et Bachar el-Assad.
Et ça, dans des casernes ou même des tentes, c'est beaucoup plus difficile à faire.
C'est-à-dire quand vous fermez des centres d'asile entier comme à Virton avec du personnel qualifié, que vous licenciez et que vous remplacez ça de facto par des gens dans des casernes avec plein de bonne volonté mais forcément qui n'ont pas forcément le même savoir-faire dans des casernes sous des tentes, dans des préfabriqués, forcément on perd quelque chose dans la qualité de l'accueil et là c'est dommage pour le respect des droits fondamentaux des personnes concernées.